Lizzie présente. 9. C'est arrivé la nuit. De Marc Lévy. Lu par Audrey Sourdive avec la participation de Marie Bouvier. Suivi d'un entretien avec l'auteur. Salle de visioconférence. L'écran scintille. Le haut-parleur grésille. Connexion établie à minuit GMT par protocole crypté.
Vous m'entendez ?
Je vous entends très bien. Et vous ?
Le son est clair, mais je ne reçois pas encore l'image.
Cliquez sur le bouton vert en bas de votre écran. Celui avec une icône représentant une caméra. Voilà. Maintenant, nous nous voyons. Bonjour.
Comment dois-je vous appeler ?
Ne perdons pas de temps. J'ignore si nous pourrons rester là très longtemps.
Nous sommes le...
Il était convenu, avant de fixer cet entretien, qu'il n'y aurait aucune indication de date ou de lieu sur l'enregistrement.
Alors commençons.
Minuit 2, GMT. Début de retranscription.
Un jour viendra où des étudiants s'interrogeront sur vos choix, sur un parcours qui vous a conduite à la clandestinité et privé de la plupart des réjouissances qu'offre la vie. Qu'aimeriez-vous leur dire avant qu'ils vous jugent ?
Que le sort des autres me préoccupait autant que le mien. Le sentiment que j'éprouvais m'a forcé à regarder le monde au-delà de ma seule condition, à ne pas me contenter de m'offusquer, de protester, de condamner, mais à agir. Et le groupe 9 en était le moyen. Pourquoi ? Afin que d'autres se préoccupent aussi d'un avenir qui deviendrait inéluctablement le leur, avant qu'ils en comprennent les conséquences. Pour préserver leur liberté. La liberté. J'imagine que formulé ainsi, cela peut paraître grandiloquent. Mais vous penserez bien à écrire dans votre article qu'au moment où je me confie à vous, mes amis et moi sommes activement recherchés et risquons d'être éliminés ou de passer le restant de nos vies enfermés. J'espère que cela apportera une touche d'humilité à mon propos. Tout cela, finalement, je l'ai fait parce que j'aimais. Parce que j'aime. La peur est venue ensuite. Chapitre 1. La première nuit, à Oslo. À 1h du matin, la pluie rabattue par le vent tambourinait sur les toits d'Oslo. Et Ekaterina croyait entendre tomber des volets de flèches tirés depuis la ligne d'horizon. La veille encore, le ciel était dégagé, mais plus rien ne ressemblait à hier. De la fenêtre de son studio, elle contemplait la ville dont les lumières s'étiraient jusqu'au rivage. Ekaterina avait recommencé à fumer, ce qui l'inquiétait moins que de devoir arrêter à nouveau. Elle avait allumé une cigarette pour tuer l'ennui, calmer son impatience. Dans son reflet, à la fenêtre, elle constata la fatigue accusée par ses traits. Un déclic la tira de ses pensées. Elle se précipita sur son ordinateur pour consulter le courriel qu'elle attendait. Pas de texte, seulement un fichier contenant 2 pages d'une partition musicale. Pour les déchiffrer, ce n'était pas en solfège, mais en codage qu'il fallait être expert. Installée dans son fauteuil, Ekaterina s'amusa de ce défi. Elle dénoua ses cheveux, redressa les épaules, jeta un regard à son paquet de cigarettes, renonçant à en griller une autre, et s'attela au décryptage. Dès qu'elle eut compris la teneur du message, elle tapa en retour quelques mots sibyllins. « Que viens-tu faire dans ma ville, Matteo ? Nous étions censés ne jamais nous rencontrer. »«
Je te l'expliquerai le moment venu, si tu as bien compris où. »«
Où ? Presque trop facilement, mais tu ne m'as pas indiqué quand, » pianota Ekaterina. « Va dormir sans tarder. » Matteo ne suggérait pas à Ekaterina d'aller se coucher, mais de couper la connexion. La paranoïa de son ami n'allait pas en s'améliorant. Elle s'était souvent demandé quel genre d'homme il était, à quoi il ressemblait, quelles étaient sa taille, sa corpulence, la couleur de ses cheveux. Blond, brun, peut-être roux comme les siens, à moins qu'il ne soit chauve. Elle était encore plus curieuse de sa voix. Matteo parlait-il vite ? Avait-il une élocution posée ? La voix était ce qui la séduisait le plus chez un homme. Belle,
elle pouvait occulter bien des défauts. Pédante, gouailleuse, trop haut perchée, elle disqualifiait tout prétendant, même le plus sublime. Ekaterina avait le don de l'oreille absolue. Selon les circonstances, c'était une bénédiction ou une calamité. Étrangement, elle ne s'était jamais interrogée sur l'âge de Matteo. Elle s'imaginait être la doyenne du groupe, une jeune doyenne, mais elle se trompait. Les doigts suspendus au-dessus du clavier, elle hésita et finit par partager son inquiétude. Si le temps n'évolue pas, il faudra changer nos plans. La réaction de son interlocuteur se fit attendre. Enfin, Matteo lui donna une information qui semblait le préoccuper davantage que la météo du lendemain. Maya ne répond plus. Depuis quand ? Pianota Ekaterina. L'écran resta inerte. Elle comprit que Matteo avait brusquement mis fin à leur échange. Elle ôta la clé USB de son ordinateur, interrompant à son tour la liaison avec le serveur relais qui empêchait que l'on puisse la localiser. Elle retourna à la fenêtre et s'inquiéta en voyant que la pluie redoublait d'intensité. Ekaterina occupait un logement au dernier étage d'un immeuble qui hébergeait des enseignants de la région. Une tour rectangulaire haute de 14 étages, en briques et bardages, se dressant au croisement de Smørgata et de Jens-Bjelkesgaten. Les cloisons étaient si fines que l'on entendait tout ce qui se passait dans les studios adjacents. Ekaterina pouvait se dispenser d'une montre, elle reconnaissait chaque heure de la journée et de la nuit à ses bruits. Le voisin de palier venait d'éteindre sa télévision. Il devait être 1h30, le moment de prendre un peu de repos si elle voulait avoir les idées claires au réveil. Elle éteignit sa lampe de bureau et traversa la pièce jusqu'à son lit. Le sommeil ne venait pas. Ekaterina ressassait ce qu'elle devrait accomplir. Dès 8h, elle s'installerait à la terrasse du café du théâtre, au pied de l'hôtel Continental, où au beau jour les clients prenaient leur petit déjeuner. Son sac contiendrait un appareillage électronique léger, un modem, un analyseur de fréquences, un séquenceur de code. Elle aurait 10 minutes pour pirater et détourner le réseau Wi-Fi du palace. Le tour accompli, tous les portables qui s'y connecteraient seraient à sa merci.
Ne vous méprenez pas. Aucun membre du groupe 9 n'irait gâcher ses talents à voler des numéros de cartes de crédit ou pirater le contenu de messagerie à des fins criminelles. Il existe 3 sortes de hackers. Les Black Hat courent après l'argent. Ce sont des malfaiteurs qui opèrent dans le monde numérique. Les White Hat, souvent d'anciens délinquants du web, ont choisi de mettre leur expertise au service de la sécurité informatique. La plupart travaillent pour des agences gouvernementales ou de grandes entreprises. Les mauvais hackers finissent toujours par se faire prendre, les très bons par se faire recruter. Black ou White, ceux qui excellent forment une caste à part et se livrent une guerre permanente où tous les coups sont permis. Gagner n'est pas seulement une histoire de gros sous, mais plus souvent une question de gloire, d'honneur ou d'ego.
Et à laquelle de ces 2 catégories appartient Ekaterina ?
À aucune. Comme tous les membres du groupe, Ekaterina est une Grey Hat. Une hors-la-loi qui œuvre pour le bien. Elle n'a jamais chassé que de gros gibiers, et ce jour-là, elle en traquait un de taille. Stéphane Baron, un puissant salopard.